quelle part je, active je peux avoir oui. dans ce monde que vous décrivez qui est juste, enfin, qui est juste oui. dans la description, mais qui semble m'échapper totalement, parce que je me sens, comme par rapport au problème du go, je me sens totalement...
Oui, j'entends bien. Oui,
a... Sans force, alors que je peux localement bien agir sûr. Sur mon environnement proche, ma famille, mes amis, mon maire, mon engagement sociétal... Dans mon environnement proche, dans ma manière d'acheter, dans ma manière de vivre.
Bien sûr.
Comment je peux me situer dans tout ça pour avoir une action
bien sûr. Bien sûr. Ben, je veux déjà dire pour une première boutade, ben, déjà ce soir, c'est une première étape que vous avez faite. Et venir discuter, venir s'informer, venir échanger avec les uns, avec les autres, comprendre ce qui se passe, c'est déjà quelque chose d'important pour ne pas se laisser enfumer et avoir un certain nombre de ouais, d'embrigadement qui est quand même à l'œuvre actuellement. Alors après, qu'est-ce que vous pouvez faire localement ? Ben, vous pouvez, avoir des activités différentes. Ça peut être des activités associatives, ça peut être des activités politiques, ça peut être déjà exiger avoir peut-être un personnel politique de plus grande qualité, ça peut être agir pour avoir des institutions politiques de qualité, parce que vous n'aurez pas une bonne politique économique, vous n'avez pas des bonnes institutions, et c'est pas que du débat d'intellectuel, c'est le premier truc, hein. C'est déjà... Moi, je suis fasciné de voir... Ça, faudra le couper, ça, par contre, on peut pas le laisser de cette façon-là. Non, mais regardez, mais... Enfin, je vois plein de gens... de dirigeants d'entreprises de très grande qualité. Je fais pas l'idée de l'angélisme. Moi, je vois plein de directeurs, j'en connais plein, des mecs, donc l'entreprise, elle est plutôt bien gérée, c'est des mecs qui sont intelligents, ils font pas n'importe quoi, ils ont une éthique, ils sont pas prêts à vendre père et mère pour avoir quelques stock options. Ils ont bien, pas de soucis. Hein. Sauf que ces gens-là, ils s'engagent jamais en politique. On pourrait dire ce qu'ils font pour l'entreprise, pourquoi ils le font pas pour le pays. Et ce qu'il y a de plus vicieux, je trouve, surtout dans le secteur financier que je connais bien, c'est que ces gens-là, ils sont en train de mettre leur vie au service de leur entreprise et de faire bien leur boulot. Pendant ce temps-là, vous avez des gens qui gèrent le pays, qui vont mettre leur propre entreprise en faillite avec leur manque de courage ou de rationalité dans les décisions qu'ils prennent. C'est quand même assez intéressant. On va dire, c'est des gens qui sont en train vraiment de nous repeindre les cabines du Titanic superbement. Quoi. C'est bien, ils font un beau boulot, c'est bien peint, hein. Mais c'est pas de bol, c'est le Titanic qui va dans l'iceberg, ça sert un peu à rien. Donc c'est que cette forme de manque d'engagement aussi dans le politique pose question. C'est aussi un des axes principaux. Si je suis sur la partie plus économique, si vous êtes plus sur la partie climatique, sur la partie environnementale, ben vous avez plein de choses à faire. Il y a plein d'associations qui militent sur arrêtons d'être dans un productivisme sans fin, dans un individualisme forcené de... c'est ça, enfin en tout cas de ne pas gérer la planète et le pays en bon père de famille, pour reprendre une ancienne expression du code civil. C'est ça qui se passe aujourd'hui, dans une irresponsabilité généralisée. Donc voilà, enfin, en tout cas, c'est pas les occasions qui manquent aussi de s'engager dans sans jouer l'abbé Pierre, mais pour essayer de changer un peu les choses. Mais ça passera d'abord par une information, par la compréhension des mécanismes. J'ai regardé hier de nouveau. Très beau film de Naomi Klein, la stratégie du choc. Je le mettrai dans une dizaine de jours sur le blog. C'est très éclairant. Hein. C'est très éclairant. Vous comprenez bien cette stratégie du choc, un peu théorisée par Friedman, qui est il faut qu'il y ait des gros pépins. C'est super quand il y a un gros pépin dans le pays, en hausse septembre, un coup d'État au Chili, quelque chose comme ça. Parce que la population va avoir peur, va être choquée, et c'est le moment où vous allez pouvoir faire passer tout ce que vous voulez. Si je prends la crise actuelle, vous regardez, on vous explique. Non, trois fois rien. Hein. La retraite, on va la mettre à 70 ans. On va se saigner aux quatre veines et se serrer la ceinture pendant 40 ans pour rembourser les liens de Bettencourt. C'est vachement important. Il faut... les Grecs sont en train... On explique qu'ils vont vendre quasiment tout le pays à l'étranger. C'est quand même des discours. Enfin, ça, faut le faire passer, ça. Et c'est cette stratégie du choc qui... on profite un peu de la faiblesse, l'état de tétanie des gens pour essayer de faire passer tout et n'importe quoi. C'est vrai que Naomi Klein montre assez bien que déjà le premier truc, c'est qu'il faut savoir que ça existe, ça. Rien que le fait de savoir que ça peut exister, ça rend les gens vigilants et ça rend beaucoup plus difficile cette stratégie et ces dérégulations, ces déréglementations, ces destructions du modèle social. Si déjà vous savez que, attention, quand vous êtes en choc... Il faut peut-être avoir une confiance moyenne dans le gouvernement, il faut faire attention à ce qui se passe et à ce qu'on vous enlève à ce moment-là parce que vous êtes dans une situation de peur, de fragilité ou d'attente. Rien que de le savoir déjà, ça évite beaucoup, beaucoup de problèmes. voilà, c'est un exemple. Alors, je ne sais pas si je réponds, si je réponds assez bien à la question, mais oui, on a évidemment beaucoup de choses à faire, pour, et heureusement quand même, pour améliorer les choses. Mais pour ça, il faut peut-être aussi avoir d'autres visées que aller regarder Star Academy à la télé. Quoi. Oui, ça en est, mais c'est pas les initiatives qui manquent, oui, tout à fait. Ça peut être sur la monnaie, ça peut être... Oui, bien sûr. Oui, mais après, ça dépend quelle va être la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui vont vouloir agir sur la monnaie, il y a des gens qui vont vouloir agir sur le climat, il y a des gens qui vont vouloir agir sur les institutions politiques, il y a quand même plein de choses à faire. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même 2-3 problèmes, donc ça veut dire qu'il y a quand même 2-3 axes de mobilisation, mais... Ouais, c'est ça parfois qui suit, ouais, qui me frappe un peu, c'est cette, cette stratégie ou cette, ouais, ce syndrome bisounours, où l'histoire d'humanité elle est jalonnée en permanence de problèmes, de crises, et puis chacun on a avancé et voilà, on s'en est tous bien sortis, la preuve on est encore vivant aujourd'hui. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une phase du zéro effort en fait. Parce qu'on vit ça, on a de la chance, hein, la génération du baby boom. De 68, elle a vécu, elle a grandi pendant les 30 glorieuses, et elle a vécu une période où il n'y avait pas de guerre, où il n'y a eu que du progrès social, où il y a eu progrès économique majeur, hein, ces 30 glorieuses. Même on a sorti nos pays du sous-développement, pays où on a tout ce qu'il nous faut, on a même tout ce qu'il nous faut pas. Donc c'est pour dire, là vraiment, on est gavé, on nous explique qu'il nous faut encore plus. Bon, principe de la croissance, folle dans nos pays en tout cas. Bon, faut voir aussi que cette génération-là, somme toute, c'est la génération qui était issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr que pour commencer dans la vie, quand on est issu de la Deuxième Guerre mondiale, c'est faut peut-être pas non plus que jeter des cailloux à cette population-là. C'est normal qu'il y ait une réaction face à cette pire boucherie de l'histoire humaine qui a été la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu cette période ouais, historique, quoi, de vrai progrès. Cette population a cramé tout le pétrole de la planète, hein, mine de rien. Juste, enfin, rien, ça va mieux quand on crame tout le pétrole de la planète. Suivant, ils se démerderont sans, mais... Et on a un peu l'impression qu'on n'est plus capable d'accepter des efforts, d'accepter qu'il puisse y avoir des problèmes, d'accepter que ça puisse aller moins bien. Je dis pas que c'est la misère, d'accepter que ça puisse aller moins bien. Et sur plein de niveaux, hein. Vous pouvez regarder économique, politique, militaire. Je dérive un peu, mais enfin vous m'y incitez. Moi j'ai été frappé par tout ce qui a entouré. Si vous regardez ce qui s'est passé, c'est plus au mois d'août, sur nos 10 soldats en Afghanistan qui sont morts. Bon, c'est dramatique, hein, pour ces populations, on peut être que solidaire, effectivement, des familles et tout. Mais il y a eu des heures et des heures de direct à la télé, ouais, de drame national, de... Je suis un peu dur en disant ça, mais enfin, c'est sûr qu'on envoie des soldats se battre dans un pays étranger, c'est sûr, des fois, il y en a qui meurent, quoi. Enfin, c'est cynique, mais ça s'appelle la guerre, quoi. Et on a l'impression qu'on a un pays aujourd'hui où un mort ou 10 morts, ça devient le critère inacceptable. Je dis pas que c'est bien, vaut mieux qu'il n'y en ait pas, ça c'est sûr. Je dis juste, en face de nous, il y a plein de pays pour qui 100 000 morts, c'est peut-être pas si grave, quoi. Hein, c'est Mao Tse-tung qui disait, vous savez, la Chine, c'est le seul pays qui a aucun problème avec le nucléaire, parce qu'on peut se prendre 20 bombes atomiques sur la tête, c'est-à-dire, c'est pas grave, il restera vraiment suffisamment de Chinois. Voilà, enfin, on est sur voilà, j'espère que ça va durer. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment outillé pour des changements de mode de vie majeurs. Ouais, je vais le publier, Orloff, d'ailleurs, j'ai travaillé dessus. C'est qu'Orloff a écrit des beaux trucs sur l'écroulement du communisme, vu qu'il est russe. Et il fait des parallèles entre l'écroulement des États-Unis actuels qui est en train de rejoindre l'écroulement de la Russie des années 89. Bon, en tout cas, vous pourrez lire ça... prochainement, c'est dans les tuyaux. Donc là, oui, heureusement qu'il y a plein d'initiatives à faire. Ce serait malheureux que d'être un peu dans la situation de passager d'un avion en train d'aller vers une montagne, quoi, ou de passager du Titanic. Heureusement qu'il y a plein de choses à faire. Heureusement qu'il n'y a pas non plus des drames immenses, mais il faut juste en être conscient qu'il peut y avoir des problèmes. Et des fois, juste être conscient qu'il peut y avoir un problème, ça permet d'éviter le problème. Et si en permanence, on vous dit qu'il n'y a pas de souci, dormez tranquille, mes braves gens, ce qu'on nous fait quand même vraiment depuis 3 ans, ça inquiète. L'incertitude est pire que la certitude du problème, hein. C'est moins grave de savoir qu'il y a un ouragan qui vous vient dessus que de vous dire tous les jours que tout va très bien, sortez en short. Cette incertitude là en tout cas, cette non compréhension est très effrayante pour les gens. Ouais, je sais pas si. Oui. Attends, on va passer le micro peut-être.
Oui. Oui, moi pour revenir un peu sur juste la question financière qui était le début du sujet, j'avais une question sur les CDS. Et il semblerait, d'après tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut lire, entre autres sur votre blog, que finalement le problème posé est au moins aussi important et problématique que celui des dettes souveraines, et qu'on n'en entend pratiquement pas parler, que le sujet paraît complètement occulté, sauf si visiblement, malgré tout, la défaillance de la Grèce laisse présager que ça inquiète un peu nos gouvernants. Et je voulais avoir votre point de vue par rapport à ça, et comment vous analysez, vous, déjà ce sujet-là, et comment vous voyez la sortie de ce problème-là. Même si, pour terminer, la question essentielle, c'est monsieur qui l'a posée, oui, parce que finalement, on est effectivement dans une crise, dans une problématique de crise qui est globale, et dont finalement, elle paraît tellement énorme et insurmontable qu'on se demande par quel bout il faudra la prendre, parce que...
Elle n'est pas insurmontable que ça.
Enfin, elle paraît quand même compliquée.
Vous savez, moi, j'ai un grand-père qui a fait Verdun. Je pense que ma situation est quand même meilleure que la sienne.
Ouais. Donc, enfin, oui, mais même enfin, si on va au
non,
bout.
Il faut relativiser aussi.
Si on va au bout du
raisonnement.
Ouais, mais si on va au bout du raisonnement de monsieur, on peut se poser la question si finalement on ne va pas vers un deuxième Verdun. Enfin, là, bon.
Non, il faut espérer que non. C'est pour ça qu'il faut en être conscient et qu'il faut se battre et qu'il faut se battre là-dessus. Il y a la haine entre les peuples, il faut arrêter d'imaginer que c'est quelque chose qui n'a existé qu'au XXe siècle. Il faut arrêter d'imaginer que les Chinois nous veulent vraiment que du bien. Ouais, c'est pas vrai du tout, ça. Et c'est normal aussi, parce qu'en plus, vu ce qu'on leur a fait, ils sont un peu revanchards, les Chinois. Et il faut discuter avec des chefs d'entreprise qui vont en Chine, ça, ils vous raconteront que, je dirais, la mentalité bisounours qui est en Europe, elle est vraiment qu'en Europe. Hein. Que déjà, les États-Unis ne se laissent pas faire non plus tant que ça, même si, bon, ils sont aussi assez idéalistes. Bon, enfin, en Asie, il y a plein de gens qui attendent leur revanche, mais ce qui se comprend aussi, hein, c'est vrai. Ils ont... Enfin, on se gave comme des oies, ils ont rien. On est en train de dire, s'il vous plaît, vous pouvez pas nous aider ? Envoyez-nous votre argent. On n'a pas beaucoup, c'est pas grave, envoyez-le quand même, on va le prendre. Ouais, ça marche pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je sais pas si vous savez, au moment des Jeux Olympiques de Pékin, il y a eu toute la petite cérémonie d'ouverture. Dans la cérémonie d'ouverture, vous avez un soldat qui fait une espèce de petit parcours, là, blablabla. En fait, le soldat, il fait... j'ai plus le chiffre en tête, vous m'excuserez, il faudrait le recalculer. Il fait, je crois, 179 pas. Il marche 179. Pourquoi il fait 179 pas ? Parce que ça faisait 179 ans qu'on avait envahi, enfin que la Grande-Bretagne avait envahi la Chine pendant sa guerre de l'opium. Vous imaginez quand un pays qui fait les Jeux Olympiques, il en est à ressortir une cérémonie avec un militaire qui est en train de rappeler qu'il y a 179 ans qu'on les a envahis quand même. Ça, c'est un fait, c'est tout. Il faut comprendre cette mentalité-là aussi. Donc oui, alors j'en viens peut-être à votre question. C'est quoi les CDS ? Les CDS, c'est les... Je vous ai dit que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Si, c'est des espèces d'assurance en cas de défaut d'un emprunteur. Donc, à la base, si j'achète une obligation Renault, je prête de l'argent à Renault, j'attends que Renault me rembourse, et Renault me remboursera, sauf si Renault fait faillite. C'est condition que Renault ne me rembourse pas. Donc je peux essayer d'aller acheter une assurance qui me remboursera si Renault fait faillite. Bon, à la base, ça ne semble pas si bête que ça. C'est censé être de l'assurance, en fait ça n'en est pas tant que ça, parce que c'est géré non pas par des assureurs, un noble métier, c'est géré par tout et n'importe quoi en fait, donc des banquiers, des hedge funds, enfin tout et n'importe quoi, encore je n'ai pas approfondi, je ne sais pas si chacun d'entre vous pourrait pas vendre des CDS. Donc ça devient des produits d'assurance qui ne sont pas du tout gérés par des assureurs. Pour couvrir ce risque de faillite, ou en général comment marche un assureur, ou comment marcherait un assureur sur ce genre de choses, eh bien vous, ce serait un contrat d'assurance qui serait régi par le code des assurances. L'assurance engagerait à vous donner de l'argent en cas de faillite de Renault, donc il vous demanderait une prime, une cotisation. La cotisation, il serait obligé de la garder dans des provisions techniques, donc en clair, il la garde de côté en attendant que le pépin se réalise. Quand le pépin se réalise, si c'est pas trop trompé, et que ça fait un certain temps qu'il encaisse des primes, bah, il a l'argent de côté, puis vous payez. Quoi. Ouais, c'est tout bête, un assureur. Là, c'est pas ça du tout, parce que autant, si vous voulez ouvrir une structure pour assurer la mob là, de votre gosse, faut juste monter une compagnie d'assurance, faut demander un agrément à l'autorité de contrôle prudentiel, faut juste mettre 2-3 millions de capitaux propres, faut attendre sans doute 2-3 ans qu'ils inscrivent le dossier. Pas gagné, quoi. Alors par contre, pour assurer le défaut de Renault, ça rien en fait. C'est rien, c'est libre. C'est open bar. Ça vous voit le truc. C'est pareil, c'est une promesse. Hein. Allez-y les amis, on fait une promesse de payer. Donc, je vous promets de vous payer si Renault fait faillite. Pour ça, je vous demande quand même une cotisation. Alors, bien évidemment, il n'y a pas des actuaires qui ont calculé le risque. Hein, parce que c'est. Vous connaissez où la probabilité de Renault qu'elle fasse faillite ? Alors, je parle de Renault déjà. On peut s'étudier Renault. Et évidemment, on parle des CDS souverains. Parce évidemment, on a étendu ça à des pays. C'est quoi la probabilité que la Grèce elle fasse défaut ? Parce que contrairement à Renault, tant qu'il ne sera pas en faillite réelle, il paiera. Hein, c'est une obligation qu'il a contractée. Un État, il peut faire défaut. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne fait pas défaut parce qu'il ne peut pas payer. Il fait défaut parce qu'il ne veut plus payer. Autrement dit, le gouvernement considère qu'il a plus intérêt à faire défaut qu'à payer. Et c'est ça un défaut souverain. Donc la question, c'est jamais est-ce qu'il peut payer, il peut toujours payer. C'est est-ce qu'il veut le faire. C'est-à-dire que est-ce qu'il préfère que les prêteurs fassent défaut ou est-ce qu'il préfère avoir 3 millions de personnes avec des fourches en bas de chez lui. Généralement, quand il en arrive là, il arrête de payer. Il ne poursuit pas. Donc au niveau du CDS, ben non, il n'y a pas de règle. Donc vous avez votre petit hedge fund. Vous, c'est pas compliqué. Hein, vous n'êtes pas en train de faire de la CIO, il faut investir des millions au fourneau. Il faut une feuille de papier. Et puis dessus, vous mettez, si la Grèce fait défaut, je vous donne 1000 euros. J'ai fait le CDS. Je vais vous le vendre quand même. Je vais vous dire ça. 6 euros. Allez, paye-moi 6 euros parce que je considère que la Grèce a une chance sur 180 de faire faillite. Vas-y, envoie le truc. Donc j'encaisse les 6 euros. Là où un assureur, les 6 euros, il va les mettre en bon petit écureuil dans un coffre-fort. La banque, non, c'est bon. Hein. Résultat, hop, on distribue. C'était le résultat de l'année. Elle n'a rien de côté. Elle n'a que ce machin-là qui est hors bilan. C'est même pas comptabilisé dans son bilan, ce truc-là. C'est un engagement hors bilan. Qui actuariellement est impossible à coter. Ça vaut combien cette promesse ? On ne sait rien combien ça vaut. Ça varie tous les jours en fonction de la probabilité de défaut de la Grèce que je ne connais pas et qui n'est pas calculable. J'en sais rien. Et donc, c'est ces structures qui s'amusent à faire ce genre de promesses. Alors, pourquoi ? Pour une raison simple, hein, déjà, c'est que si vous demandez à un assureur de faire ça, il ne voudra pas. Parce que, bon, premier, on n'est pas fou. Hein. Ça, c'est pas possible, c'est pas assurable. Ça, c'est du pari, en fait. Ça, c'est plus de l'assurance, c'est du pari. Je peux pas modéliser le pari, j'en sais rien. Quand il y a la probabilité de la Grèce, comme je connais pas la probabilité, je peux pas faire un tarif. Comme je peux pas faire un tarif, j'ai pas d'actionnaires qui sont OK pour immobiliser de l'argent là-dessus. Donc, un assureur, si vous soumettez ça, comme ça devrait être, la réglementation des assurances, puisque c'est une assurance de défaut, vous n'aurez pas d'assureurs qui vous le couvriront, donc pas de marché. Ça, dommage, ça ferait moins d'argent pour les financiers. Donc tout ça n'est pas soumis à la réglementation assurantielle et est simplement fait par les banques. Encore beaucoup, beaucoup plus drôle, parce que sinon quand même là ce serait juste n'importe quoi et ce serait pas à la hauteur du financiarisme. Il y a un intérêt au CDS à la base en théorie. J'ai une action Renault, c'est bien normal que j'essaie de me protéger en cas de défaut de Renault. Je paye ce truc-là. Ouais, ce qui est beaucoup mieux, hein, c'est que vous pouvez l'acheter sans avoir une action Renault. Ouais, c'est drôle, hein. C'est très drôle. Vous n'êtes pas exposé au risque, vous vous assurez. C'est-à-dire que c'est comme si vous souscrivez une assurance sur la voiture du voisin. Donc quand le voisin a un accident, tac, c'est vous qui y touchez l'argent. Donc bien sûr, comme vous avez payé une prime, vous avez intérêt à ce que le voisin ait un accident. Quoi. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à acheter ce truc-là. Non, mais ça paraît con, mais c'est con. Hein, mais ça existe, en fait. On autorise ce truc-là. Alors, bien évidemment, comme en plus c'est des banques qui ont ça, qu'il n'y a pas de provision pour faire face au risque, et si le risque se réalise, vous faites comment pour payer ? Il faut aller pomper dans les fonds propres, avec des risques de contrepartie, parce que tout ça s'échange, c'est un gelé, mais il y a aussi qui sont vendus à découvert, donc j'ai même vendu ce papier-là sans l'avoir, j'achèterai plus tard. C'est vraiment du... Ah oui, non, c'est au carré, là. Voilà, donc vous êtes dans un niveau de n'importe quoi absolu, et ce niveau de n'importe quoi absolu, en plus, il n'est pas mesurable. C'est-à-dire que c'est pas dans les bilans, c'est du hors bilan. Par définition, c'est pas dans le bilan. Oui, 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 si, ça s'estime, ça fait partie. J'ai ça dans ma to-do list en fait, de sortir quelques graphiques là-dessus. Oui, il y a beaucoup de dizaines de milliards d'euros là-dessus. Je crois que j'ai vu le chiffre de la Grèce. Donc la Grèce a 350 milliards de dettes. Je crois qu'il doit y avoir 10 ou 15 milliards de CDS là-dessus. Mais en fait, on ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas qui est engagé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Non, il n'y en a pas autant. C'est pas pour les CDS. Non. C'est des milliers de milliards, c'est les produits dérivés sur les crédits.
Et alors, en cas de faillite effective de la Grèce, qu'est-ce qui est payé sur ces CDS ?
Ah ben, oui, l'engagement se réalise. Donc, si la Grèce, quand on a fait... Pourquoi il n'y a pas eu cette histoire de fameuse décote de 50% volontaire ? de la dette grecque, c'est pas un défaut. S'il y avait un défaut, il aurait fallu payer les CDS. Évidemment, hein, c'est fait pour. Hein. Oui, les CDS sur la Grèce qui ont été faits. Donc il aurait fallu, si la Grèce avait dit vraiment je fais défaut sur 50%, mettre en place ces paiements. Et donc l'autorité qui contrôle les CDS a dit là, non, la Grèce, c'est volontaire que les gens payent pas, donc il n'y a pas de défaut. Et donc on ne met pas les CDS en marche. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas où ils sont. Alors il se passe quoi si vous faites ça ? Bah, très concrètement, la Grèce, elle fait défaut, il faut payer. Donc le gars qui a une obligation grecque, et puis la Grèce lui dit, bah, va te faire voir, cher ami, bah, il va voir sa banque préférée en disant, tant bien, vous avez fait un CDS, vous avez vu l'amabilité de me payer. Sauf que la banque, elle n'a pas de quoi payer, en fait. Forcément, puisqu'elle n'a pas gardé l'argent. Donc il faut qu'elle prenne sur ses fonds propres. Alors, je vous rappelle que BNP Paribas, c'est un bilan de 2000 milliards, ils ont 80 milliards de fonds propres, hein, ces gens-là. Voilà. Donc c'est, ils n'ont pas de quoi payer. Et si vous faites ça, bah, vous allez rapidement mettre la banque en faillite, qui elle-même va mettre en faillite la banque d'à côté, parce qu'elle aussi elle a des engagements vis-à-vis de la banque d'à côté. Vous avez des choses cataclysmiques là-dessus. Et franchement, c'est ça les CDS. Bon, quand je vous l'expose, c'est, je pense qu'il ne faut pas avoir fait polytechnique pour dire que c'est quand même très très con comme système, pas sain, et ça devrait être interdit. Ou en tout cas, vraiment très réglementé, réservé à des gens qui ont vraiment le risque, pour qu'il n'y ait pas des tentations de faire n'importe quoi avec. Mais bon, ça coûterait la peau des fesses, et puis personne ne souscrirait ces trucs-là. On ne pourrait même pas les comptabiliser. Pourtant, je vous dis, c'est quand même pas très compliqué. Ce serait bien qu'il n'y ait pas que l'extrême droite ou l'extrême gauche qui propose d'interdire ce genre de trucs. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas être centriste et puis trouver ça stupide et demander ce qu'on interdise.